Entre nous soit dit, Mélanie Croubalian.
Bonjour à tous. Quand vous lisez une histoire, comment en imaginez-vous les héros? Vous identifiez-vous aux protagonistes? Prenez par exemple cette jeune fille qui découvre l'amour et son corps. Vous rappelle-t-elle celle que vous avez été un jour? Cet employé de bureau dénigré par ses collègues, vous rappelle-t-elle quelqu'un? Et ce petit garçon, un peu rondouillard, qui se meurt de chagrin suite à une blague stupide de ses camarades de classe? L'adolescent qui tombe amoureux de sa prof, le couple séparé depuis longtemps, qui se revoit par hasard dans un train, la nouvelle amoureuse qui doit apprivoiser la fille de son compagnon, ou l'appartement partagé avec une autre, auparavant, autant de situations qui sont tracées à petites touches dans le dernier livre de mon invité d'aujourd'hui, des nouvelles à picorer. Bonjour Mélanie Richaud.
Bonjour.
Le bain et la douche froide, c'est le titre de ce recueil de nouvelles. Et ça dit bien ce que ça dit, hein, parce que parfois on prend un bain chaud et bien agréable en lisant vos nouvelles, et parfois on prend une sacrée douche froide. Ça peut être très très sombre.
Oui, j'aime bien la dualité des choses, et dans les textes, et dans les images, et puis là il y a la température, il y a la chaleur du bain, et puis il y a la douche glaciale.
Ça existe aussi. Ouais. Vous avez savamment concocté d'ailleurs le fil de ces récits, hein, c'est-à-dire que si on les lit dans l'ordre,
oui,
vous
sont
guidez faites, gentiment.
Elles sont faites pour lire dans l'ordre. Au début, j'apprivoise quand même un petit peu le lecteur en lui donnant quand même le ton qu'il va falloir qu'il s'assoie. Et petit à petit, il me fait confiance. Enfin, j'espère qu'il me fait confiance. Et après, je vais dans des choses plus profondes et plus décalées et plus osées vers la fin.
C'est publié chez Slatkin, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Vous nous venez du côté de Fribourg. Mélanie Richaud, ce n'est pas votre premier livre. Vous avez publié, je crois, deux autres livres avant ça. Il y avait Mu et Tourterelle.
Oui, deux romans, Mu et Tourterelle. Puis avant ça, il y avait encore une collaboration, Je croyais que, qui était un livre illustré en partenariat avec une illustratrice qui s'appelle Yasmine Van der Auvera.
Elle a un nom compliqué, je ne sais pas le dire. Voilà, ça c'est alors dessin et texte. Et puis pièce de théâtre aussi.
Le livre Je croyais que était une pièce de théâtre qui s'appelait Machine à croire avant. C'est ma manière de fonctionner pour écrire, c'est-à-dire que j'interroge les gens, je les écoute, je les regarde. Je dis toujours que l'écriture pour moi, elle est extérieure en premier. Ça vient de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, souvent de l'entourage proche. Donc la pièce de théâtre portait sur toutes des croyances de gens. Et après cette pièce de théâtre qui avait gagné des prix et ça m'avait encouragé d'oser faire une démarche vers un éditeur, j'avais cherché un éditeur et j'avais trouvé chez Slatkin.
Vous n'êtes pas à la base écrivain, vous êtes ergothérapeute, vous pratiquez d'ailleurs toujours cette activité-là en parallèle à votre écriture.
Oui, alors j'ose pas dire que je suis écrivain. Annie Ernaux, une auteure que j'aime beaucoup, dit que le mot écrivain enferme et je suis d'accord que ça étiquette, que ça enferme. Pour moi, je dis toujours que j'essaie d'écrire, mais que ma vraie vie, c'est ergothérapeute. C'est ça qui manque dans la réalité. C'est vraiment... L'ergothérapie m'éloigne immatériellement de l'écriture, mais m'en rapproche humainement. J'aime beaucoup mon job, j'aime travailler avec les enfants, avec les gens en général. Et comme ma collègue dirait, les enfants ne mentent pas, les enfants sont dans le juste, ils nous apprennent à être dans le juste. Et puis c'est aussi le rapport que j'essaie d'avoir dans le... Ah, c'est aussi le rapport que j'essaie d'avoir dans l'écriture, d'être juste ou d'être vrai, ou même si c'est cruel, même si c'est noir, d'être proche de quelque chose de ressenti.
C'est souvent touché, comme diraient les Anglais. Les enfants sont d'ailleurs très présents hein, dans ces nouvelles. Il y a quelques histoires d'enfants très touchantes, justement, très, très vraies. En tout cas, on y croit à ces enfants-là. On se dit qu'ils existent ou ils ont dû exister. C'est peut-être le cas d'ailleurs, mais ce n'est pas tellement la question. Mélanie Richaud, vous, je me demandais, quand vous lisez d'autres livres, d'autres histoires, vous vous identifiez au personnage?
Ah oui, c'est ce que je recherche tout le temps. Enfin, la résonance, puis la reconnaissance. Enfin, moi, j'aime me mettre à la place du personnage principal ou d'un des autres personnages. Je ne cherche jamais l'auteur. Pourtant, j'adore les récits, mais j'ai envie de croire que tout ce que je lis est vrai. J'ai envie de le ressentir, j'ai besoin de m'identifier, c'est ce que je recherche en premier.
Toujours dans l'écriture, vous avez commencé en chroniquant dans un journal qui s'intitule Le Messager, du côté de Châtel-Saint-Denis. Ceux qui sont de ce côté-là vous ont peut-être déjà lu, d'ailleurs c'était sous le pseudonyme de Mélie que vous écriviez.
Oui, le pied de Mélie.
Voilà. Et j'ai lu quelque part, d'ailleurs ça m'a fait beaucoup rire, un article qui disait que vous étiez la Carrie Bradshaw de Châtel-Saint-Denis. Pour ceux qui aiment Sex and the City, ils sauront de quoi je parle. Vous êtes d'accord avec ça?
C'était au tout début. En fait, oui et non, parce qu'à cette période-là, ça fait une dizaine d'années, il y avait effectivement cette série à la télé, puis ça faisait un peu rêver de pouvoir écrire, et puis Richaud, Bradshaw, il y a quelqu'un qui avait fait la blague, et il y a une journaliste qui avait utilisé ça, puis j'avais trouvé ça drôle. J'ai beaucoup aimé être chroniqueuse. Mon parcours d'écriture a commencé effectivement, comme vous l'avez dit, par des chroniques. J'avais jamais écrit avant, si ce n'est des journaux intimes ou des petites pièces de théâtre quand j'étais ado pour rigoler. Mais là, il y avait un copain, Stéphane Bernet, qui est journaliste, qui avait repris Le Messager, la rédaction, et qui me disait, entre amis, j'ai envie que mon journal soit jeune, j'ai envie de lui donner un nouveau visage. Et du coup, je lui avais dit, il faut que tu aies une chroniqueuse, on est dans une ère de communication, on n'est plus dans une ère d'information, les gens ont besoin de s'identifier, de se reconnaître, on a besoin du jeune, nanana.
Mais vous pensiez pas du tout à vous?
Ben non, pas du tout. Je pensais pas du tout, sinon j'aurais pas dit. Puis il m'a dit, ok, je te prends, moi, écris-moi deux chroniques. Du coup, j'ai écrit deux chroniques, et il y a quelque chose de magique, c'est que j'étais obligée d'avoir un carnet pour arrêter les instants, parce que j'avais aucune endurance, aucun exercice, aucune expérience par rapport à l'écriture. Et du coup, j'arrêtais les instants, et puis je les notais vite, et puis je soumettais les chroniques. Je lui ai soumis les deux chroniques. Il a dit, c'est bon, je t'engage.
Quand vous dites arrêter les instants, ça veut dire quoi? Vous étiez témoin d'un instant?
Témoin d'un instant, surtout dans un endroit public, au restaurant, ou une phrase qui sonnait plus fort que les autres, une image ou un visage qui avait l'air de sortir en relief. Moi, ouais, voilà.
Et hop dans le carnet,
puis j'avais ce besoin de fulgurance, de vraiment d'arrêter les choses. Puis j'ai jamais osé avoir un contrat avec lui, signer un contrat, parce que je pensais que chaque texte était le dernier.
Et aujourd'hui, vous êtes remise de ça?
Aujourd'hui, je suis remise, mes angoisses sont ailleurs, elles sont toujours là.
Vous nous en parlerez, parce que c'est un peu votre psychanalyse qu'on va faire aujourd'hui, Mélanie Richaud. Justement, je me demandais, après votre psychanalyse, pourquoi il y a toujours cette touche sombre dans vos nouvelles? Parce que quand on vous voit, et il faut que je le dise pour les auditeurs, vous êtes très lumineuse, vous avez un immense sourire, vous êtes quelqu'un d'absolument positive et joyeuse.
Je crois que je suis ça dans la vie. De l'extérieur, je suis ça, mais je pense qu'on a tous une part d'ombre, je pense qu'on a tous en nous toutes les couleurs du monde entier, enfin toutes les couleurs. Et peut-être que... quand j'écris, je me donne plus l'autorisation d'aller dans mes parties sombres. Et puis ça me donne l'impression de pouvoir être plus complète ou plus près de moi-même. Mmh. C'est vrai que j'ai une amie qui dit justement qu'il y a deux Mélanie.
Alors aujourd'hui, il y en a deux. nous sommes trois Mélanie aujourd'hui. Donc Mélanie Richaud et Mélanie Croyon.
Elle dit qu'il y a une Mélanie qu'on entend, puis il y a une Mélanie qu'on écoute. Celle qu'on entend, elle a une voix douce, un peu comme Mélanie Croballion. Et puis celle qu'on écoute, ben des fois, elle lance des bombes. Je trouve que par écrit, on ose faire ça. Parce que je fais confiance au lecteur, je sais que lui a sa part de lumière, lui a son histoire, lui juge ou interprète ce qu'il veut. Les histoires appartiennent à celui qui les lit. Donc moi, j'offre, je délivre, puis je donne ma part d'ombre avec, ça fait partie.
C'est vrai qu'il y en a, il y a des bombes, c'est vrai, vous en lâchez parfois dans les nouvelles. Là, j'ai envie de lire une nouvelle en entier, parce qu'elle est très très courte, qui est une des rares nouvelles, pas du tout sombre, je trouve en tout cas. Peut-être certains la trouveront sombre d'ailleurs, hein, parce que j'imagine chacun y voit ce qu'il y voit. Le titre de cette nouvelle, c'est « Rue de la Bastille ». Elle sort de ce lit inconnu, dans un appartement inconnu, qui déborde de livres, de CD, de partitions, de stylos, de cartons à pizza, de jeans et de t-shirts jonchant une moquette rouge trouée par des brûlures de cigarettes, de cendriers, de câbles et d'adolescence. Dans la pénombre matinale, elle ramasse ses affaires, enjambe les obstacles et se dirige vers la salle de bain, qu'elle n'est plus sûre de retrouver. Elle se rince le visage, boit de l'eau fraîche au robinet, se redresse et se regarde dans le miroir taché de la pharmacie. À son reflet qui sourit en éclaboussure, elle répond par un autre sourire qui s'étend, s'étire, s'attarde. L'eau coule de son visage à son cou, du cou à ses seins. Elle saisit la serviette et s'essuie. Elle n'a pas envie de se doucher, elle veut garder sur sa peau l'odeur de la nuit. Elle accroche son soutien-gorge, enfile sa culotte et sa robe à fleurs, voltige de printemps. Elle revient dans la chambre. Sa chambre, dans ce lit, son lit. Le corps inconnu, son corps, est allongé sur le dos. Il dort, nu. L'impudeur de ses bourses offertes sur lesquelles son sexe s'est endormi encore dur lui échauffe la caresse, lui donne envie de les prendre dans ses mains, dans sa bouche, mais elle doit partir attraper son train. Elle glisse les pieds dans ses mocassins, sa main sur la poignée, son corps dans l'embrasure de la porte, et file rue de la Bastille, sans laisser de mots, sans laisser de nom, comme une voleuse de songes, comme la fille d'un soir.
Est-ce que tu aimes dans les westerns quand les Indiens kidnappent la nouvelle femme du shérif? Les Indiens transforment la jeune blanche
en une sublime
squaw.
Oui, j'aime.
Bon, alors, nous irons vivre libres dans un pays sauvage.
Dans un pays sauvage.
Et nos armes seront l'amour et le courage. Mon ami, n'aie pas peur. Je saurai te défendre. Et d'un bon coup de
Sonnez les serpents à sonnette. Est-ce que tu aimes dans les westerns quand le héros s'en va seul comme un chien?
Oh oui, j'aime.
Est-ce que tu aimes dans les westerns quand le héros revient et descend calmement tous ses vieux ennemis? Alors,
nous irons vivre libres
dans un pays sauvage.
Et nos armes seront l'amour et le courage. Mon ami, n'aie pas peur. Je saurai te défendre. Et d'un bon coup de botte, sonner les serpents à sonnette.
H.
Oui. Quoi encore?
Est-ce que tu aimes dans les westerns quand le héros seul sous la lune dompte un pur sang noir?
Ouais, j'aime bien.
Non mais c'est vraiment bien.
Une jeune chanteuse moqueuse rend fou de plaisir pour les cow-boys.
Je sais plus.
La 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 la.
Oui, et vous aimez aussi, hein, Mélanie Richaud, c'est vous qui nous avez proposé de passer cette chanson. Est-ce que tu aimes Arthur H avec M?
Oui, j'adore.
Ça raconte une histoire, finalement, vous aimez qu'on vous raconte des histoires.
Oui, j'aime qu'on me raconte des histoires. Uh-huh. D'ailleurs, ce que je préfère quand j'ai des interviews, c'est que le journaliste me raconte ce qu'il a compris, ce qu'il a lu, parce que je trouve que les textes, comme j'ai dit tout à l'heure, appartiennent à ceux qui les lisent. Uh-huh. Et comme tout à l'heure, quand vous avez lu la nouvelle, eh ben, j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai jamais entendu.
Vous redécouvrez votre texte. Ouais. Quel plaisir. Bah, on va en lire un autre extrait tout à l'heure. Mention spéciale pour la culotte taille 42. Moi, c'est ma nouvelle préférée. Mais là, il faudra que vous alliez la découvrir, les auditeurs. Je ne vais pas vous la lire parce que c'est une surprise. Moi, elle m'a beaucoup émue et beaucoup fait rire aussi. Ceux qui liront, peut-être comprendront. J'ai quelque chose à vous faire écouter maintenant. Ce n'est pas un de vos textes, mais c'est une voix que vous connaissez.
La question de la page blanche, elle existe pour nous tous, peu importe dans quel lieu on est. Je dirais que la page blanche, c'est un chemin qui devient, pour moi, de plus en plus long. C'est-à-dire que je mets du temps pour arriver à la page blanche, mais j'ai de moins en moins de résistance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut dire « je ne sais pas ce que je vais faire ». Je n'ai aucune idée. Et c'est vrai que ça m'arrive. Ça m'arrive presque toutes les années. Et d'arriver d'accepter ce temps sans essayer de le combler par, évidemment, les 30 ou 40 solutions qui se proposent immédiatement pour combler le vide. Mais d'arriver tranquillement à accepter vraiment cet espace qui permet à un moment donné de faire naître une vraie idée ou un temps de rêve pour essayer aussi d'entendre et d'essayer de sentir qu'est-ce qui va faire plaisir aux gens. De quoi ont-ils besoin? Quelle est la communication qui devra s'établir entre notre scène et notre salle? Quel est le message qui devra circuler entre nous et qui fera que les gens vont venir et qu'on va se rencontrer et que le théâtre va être en vie?
Et voilà. Et vous l'avez tout de suite reconnu, hein, Mélanie
Richaud. Oui, Gisèle Salin.
Voilà. T'as des os. C'était en 2007, au micro de Laurence Froidevaux. Alors, ça m'a frappé cette partie de l'interview que j'ai choisie, vous pensez bien, exprès pour vous. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait une corrélation entre les propos de Gisèle Salin et ceux que vous avez pu tenir dans des interviews.
Oui, par rapport à la
page blanche,
à la page blanche.
L'écriture.
L'écriture, ouais, le doute, laisser venir, laisser faire. Ça me fait penser aussi à un autre auteur fribourgeois qui s'appelle Damien Murit, qui a écrit La Lune assassinée, mm-hmm. que j'ai beaucoup aimé. Une fois, j'ai eu un échange avec lui et il disait que pour lui, il n'avait pas l'angoisse de la page blanche, mais l'angoisse de la page noire quand il y a trop.
Et vous?
Eh ben, moi, j'ai les deux, en fait. Enfin, j'ai pas l'angoisse J'ai l'angoisse de pas savoir où je vais, parce que je travaille sans plan et je travaille lentement, comme Damien Murit, justement. Donc je dois accepter que la page se remplisse doucement, doucement, doucement. Mais j'ai pas l'angoisse de la page blanche, parce que je sais qu'elle fait partie. Mais elle existe, on doit faire avec. Mmh. Puis au début, que j'ai reconnu Gisèle Salin, en fait, j'ai envie de parler d'elle. Parce qu'elle était super importante dans mon parcours. J'avais fait des cours de théâtre au conservatoire avec elle. J'avais 18 ans, 20 ans, en pleine adolescence. Et puis elle parlait d'une manière tellement passionnée que ce qu'elle disait, j'ai l'impression que tout avait du sens. Et à cette période-là, on avait interprété des textes de Corinne Habille. C'était des petits textes. Et puis, on apprenait à les lire, à les découvrir, à les interpréter. Et elle parlait de Corinne Habille. Elle avait dit que Corinne Habille, c'était une auteure valaisanne qui vivait dans une roulotte, qui avait très peu de temps, et puis qui volait du temps au temps pour écrire et qui écrivait au coin d'une table sur un papier déchiré, vite un petit texte. Puis je m'étais dit, ah, c'est possible, elle essuie ça, c'est possible, elle vole du temps au temps, c'est sur des billets, c'est sur des... Et puis, mon entrée dans l'écriture avec les chroniques, je veux pas dire que c'était comme Corinne Habille, mais j'ai eu beaucoup d'admiration pour elle. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. D'ailleurs, un des recueils de nouvelles qu'on avait travaillé avec Gisèle Salin, c'était Petites histoires cruelles. Il y avait Cruel dedans, puis Cruel m'a beaucoup parlé. Ce qu'on retrouve aussi un petit peu
dans... La cruauté dans le bain et la douche froide, elle est évidente. Hein. Ouais. C'est votre recueil de nouvelles qui vient de paraître chez Slatkin, Mélanie Richaud. Pourquoi le théâtre, au fond? Parce que on sent déjà, même au théâtre, vous aviez envie d'écrire, finalement. Vous entendez Corinne Habille qui écrit, hop, je vais écrire.
Oui. Romain Gary dit que les gens qui écrivent, c'est qu'ils sont dépourvus de tout autre talent. Quand j'étais petite, j'aurais aimé être dessinatrice de bande dessinée ou faire des vocalises, les voix de dessins animés. Enfin, et je sais pas faire ça, je sais pas dessiner, je sais pas chanter, j'ai aucune oreille musicale. Et des fois, j'ai l'impression que dans l'écriture, c'est une recherche de musicalité.
Peut-être il y a beaucoup c'est proche de la poésie parfois, ce que vous écrivez, même dans la mise en page. Là, on peut pas la montrer aux auditeurs, mais il y a beaucoup de sauts à la ligne, par exemple.
Ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment une quête de musicalité, de compensation de ce que je sais pas faire ailleurs.
Et
j'ai aussi l'impression que l'écriture, souvent, c'est le début des histoires. J'ai aussi écrit des chansons pour des jeunes auteurs.
Il y a Thierry Romanens qui en a repris une, je crois.
Ça, c'était un concours d'écriture auquel j'avais participé, et puis le texte avait été sélectionné. Et puis après, j'avais aussi fait des ateliers avec des chanteurs romans. Et ce que je trouvais génial, c'est de dire des textes qui nous appartiennent très intimement. Quelqu'un d'autre les chante, ils nous appartiennent plus du tout.
La nouvelle dont on parlait tout à l'heure.
Mais l'histoire, elle est nôtre. Puis on sait ce qu'on a vécu, on a nos images, mais ça devient universel. Puis l'écriture a ce pouvoir-là de propager un message, de donner le relais à d'autres formes d'art.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'identification du lecteur au protagoniste d'un livre. Finalement, c'est l'universalité de ces protagonistes-là.
Oui.
Même si ça part parfois d'un événement très personnel.
Oui.
Comme pour vous, Mélanie Richaud.
Oui.
Ça part de choses très personnelles.
Souvent, ça part de choses très personnelles. Il y a des nouvelles qui sont très fictives et d'autres qui sont autobiographiques. Il y a un mélange des deux. C'était deux exercices très différents. Quand on travaille de la fiction, on se nourrit vraiment de ce qui vient de l'extérieur. Donc, on peut inventer, on s'invente en écrivant. L'écriture amène à l'écriture. On est attaché, mais on n'est plus libre parce qu'on est léger. Tandis que quand on écrit un récit ou de l'autobiographique, il y a souvent une image, une phrase qui est très forte. Puis, on doit lui être fidèle sans mentir. Et c'est très difficile d'être fidèle, d'être juste avec ce qu'on a vécu. De ne pas mentir aussi par rapport aux gens que ça implique.
Aux autres personnages, pas seulement soi-même. Ouais, les personnages qui existent vraiment et qui ont vécu cette histoire-là.
Ouais.
Et qui la liront peut-être d'ailleurs.
Ouais.
J'imagine qu'il y en a qui l'ont lu. C'est pas toujours à leur avantage d'ailleurs, ces histoires-là. Vous parliez de vos différents non-talents. Mais je crois que vous savez cuisiner aussi. Écoutez ça, ça c'est mon petit clin d'œil à moi pour l'émission du jour. Ça va venir tout de suite. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. An open scar, it leads where. Voilà, on va l'écouter plus tard cette chanson. Promis, on la remettra.
D'accord.
Parce qu'elle est très très belle. Émilie Zoé, c'était pas ça ma surprise, parce que ça c'est une chanson que vous aviez demandé à entendre. C'était plutôt ça. Voilà, il y a un poulet qui est en train de passer un 5 quarts d'heure entre les mains du fameux cuisinier suédois du Muppet Show, pour ceux qui ont connu ce fameux... oui, c'est une série télévisée, au fond, hein, avec des marionnettes, Muppet Show, tout le monde connaît ça, je crois.
Oui.
Vous, en tout cas, vous connaissez?
Oui, parce que mes amis disent que je cuisine comme les Muppet Show, parce que je suis très maladroite, et puis je parle en même temps que je cuisine, et je prends du sel, et... La première amie qui m'avait dit ça, elle avait eu très peur en goûtant ce que j'avais cuisiné, parce que comme elle m'avait vu faire, elle se disait que ça allait pas être bon.
Mais en fait, c'est bon.
Ouais, c'était délicieux. Non, c'était délicieux,
en fait.
Mais c'est un chouette moment.
Non, mais alors plus sérieusement, si je vous fais écouter ça, c'est aussi parce que je me dis, vous avez ce côté-là au fond, peut-être un peu fou, qui paraît un peu comme ça freestyle.
Ah ouais.
Et que finalement, ça donne quelque chose, quoi.
Ah oui, je n'avais pas conscience que j'avais ce côté-là. En fait, je trouve que souvent, j'ai l'air beaucoup trop sage et midinette.
Je vous confirme que non. Et puis, si on analyse votre parcours, c'est ça aussi, on en parlait tout à l'heure. Il y a eu le théâtre, ensuite un peu de chronique, mais sans s'y attendre vraiment. Vous voyez ce que je veux dire, Mélanie Richaud?
Je pense
ça part dans tous les sens, puis finalement, c'est cohérent.
Je pense que et je pense que c'est un lien avec l'écriture aussi, de se disperser et de se concentrer. Et du coup, j'ai perdu
donc,
le fil.
Donc vous êtes le cuisinier suédois, mais en écriture.
Oui, un petit peu. Et je pense que ce qui me motive beaucoup et ce qui me fait avancer dans mon parcours, c'est les défis et les rencontres. Dès qu'on me lance un défi, comme tout à l'heure je l'ai dit avec le messager, je dis oui et j'y vais. Ça, c'est un principe d'improvisation. Oui et en plus. Quand on nous propose quelque chose, on dit oui et puis on se bouge,
ça,
on essaye.
Ça, c'est en théâtre, hein, quand on fait de l'improvisation.
Ouais.
Il faut toujours dire oui à l'autre qui vous propose quelque chose.
Même si on a peur, même si c'est peut-être trop audacieux, même si on se grille un bout les ailes. Et du coup, ça nous fait avancer, ça nous fait rencontrer des gens.
C'est ça qu'elle vous a appris, Gisèle Salin, finalement, en théâtre?
C'était pas l'improvisation avec elle. Oui. Je dirais que ce que j'ai appris avec elle, c'est plutôt l'intériorité. Le fait de laisser venir, de prendre du temps, de vivre lentement les choses. Bah, de laisser la place à la page blanche.
Ouais. Pas essayer de meubler avec 15 000 solutions qui se présentent tout de suite à votre esprit. Enfant, vous avez grandi à Maule, avec un S.
Oui.
Votre papa tenait la laiterie du village.
Oui, c'est ça.
J'ai lu quelque part que vous aviez peur, enfant, de sentir le fromage. C'est vrai?
Oui, parce qu'il y avait la boucherie dans le village voisin. Et les enfants qui étaient, les enfants de la boucherie sentaient la boucherie. Et puis ceux du restaurant sentaient la friture, etc. Donc j'avais peur de sentir le fromage.
Ça paraît très bucolique, tout ça. C'est gruyérien, en plus. C'est vraiment la Suisse, un peu carte postale, comme on l'imagine. Pourtant, quand on lit vos nouvelles, Mélanie Richaud, elles sont assez urbaines. Elles sont dans l'air du temps. Rue de la Bastille qu'on a entendu tout à l'heure, on imagine que ça se passe à Paris, parce que rue de la Bastille, c'est là-bas. Est-ce que vous avez eu envie, à un moment donné, d'écrire sur le village qui vous a vu grandir, ou cette région-là?
J'y ai jamais pensé. J'ai l'impression que c'est pas les lieux qui me font écrire, mais c'est les gens, c'est les rencontres. Et puis, bah, j'aime bien bouger, même si je suis assez casanière. Si je ne fais pas beaucoup, beaucoup de voyages, j'aime bien aller d'une ville à l'autre, partir quelques jours comme ça, et rencontrer des gens. Et c'est vraiment à partir des personnages que se construisent les histoires pour moi.
Si vous vous rencontriez vous-même, vous écririez quoi sur vous? Ça donnerait quoi, une nouvelle sur vous?
Nouvelle sur moi, ça c'est une grande question.
Il y a un peu de vous, hein, dans chaque nouvelle, oui, évidemment.
Oui, il y a un peu de moi. Il y a beaucoup de moi, et quand on écrit, je pense qu'il y a beaucoup de soi. Je pense que ça donnerait beaucoup de pudeur et d'impudeur, un mélange des deux, pour perdre le lecteur, pour lui dire beaucoup, mais avec douceur.
Sans trop se dévoiler.
Ouais.
Ça y est, je crois qu'on peut l'écouter maintenant, Émilie Zoé, parce qu'on en a entendu un tout petit bout tout à l'heure, ça nous a donné envie, je crois, à vous, à moi, aux auditeurs, j'imagine aussi. C'est Émilie Zoé, « So close in the distance ».
There's a road, an open road, like an open scar. It leads where all wants belong, so close, so so close.
Voilà, c'était la guitariste d'Anna Aaron, c'est ça?
Oui, c'est ça, Émilie
Zoé. Émilie Zoé, elle a 22 ans, elle est genevoise.
Elle est lausannoise.
Lausannoise, ouh, pardon, pardon Émilie Zoé. So Close in a Distance. Elle a donc fait un album solo, à part être la guitariste d'Anna Aaron. Et c'est vous qui nous l'a suggéré, et on vous remercie, parce que c'est une belle voix, et une belle guitare aussi. Autre voix, vous en parliez tout à l'heure, c'est magique.
Je ne crois pas à l'intime, si vous voulez, c'est ça la chose. Je ne pense pas qu'il y ait l'intime, c'est simplement, on pourrait dire peut-être le privé plutôt qu'intime. Mais l'intime, c'est ce qu'on partage avec tout le monde, en fait. L'intime, c'est le sexe, c'est la honte, c'est bon, ce sont les gestes dits intimes justement, bon, que tout le monde fait. Bon, et l'intime, à mon sens, n'existe pas. Et l'écriture va être pour moi un moyen de partir de ce qui m'arrive, de ce qui est de ce que j'ai connu. Bon, on a parlé de la femme gelée, donc la condition de féminine, mais essentiellement aussi, c'est la grande chose tout de même qui nourrit mon écriture, c'est le passage du monde dominé au monde dominant, le passage du milieu ouvrier populaire, donc à la parole, à l'écriture, au milieu enseignant, on va dire, pour aller vite. Et cela, donc ce passage de deux mondes, c'est quand même ça la chose importante, et ce qui fait que ça nourrit beaucoup quand même, et qui me fait penser que j'objective beaucoup plus des choses intimes que je ne les décris, si vous voulez, je les mets à distance. Mais ces choses-là, elles sont, vous savez, la déchirure sociale, le passage d'un monde à un autre, sont des choses qui ne sont pas spécialement... elles ne sont pas dites, mais elles ne sont pas intimes.
Très compliqué, hein, toute cette histoire sur l'intime. C'est Annie Ernaux que vous mentionniez tout à l'heure, parce que c'est une de vos auteurs fétiches. D'ailleurs, vous la citez en exergue du bain et de la douche froide. Vous citez une phrase d'elle, tirée de l'écriture comme un couteau, qui dit « Et de plus en plus souvent, les êtres rencontrés, ceux dont je me souviens, existent sous la forme de mots qu'ils ont dits ou de gestes qu'ils ont eus. » C'est aussi votre cas, hein ?
C'est aussi mon cas. C'est aussi souvent le départ d'une nouvelle. Une phrase que j'ai entendue dans un repas de famille ou quelque chose que j'ai vu, ben je vais construire la nouvelle autour de ça.
Une nouvelle sur cette émission, peut-être bientôt, à lire dans un prochain recueil. J'en tremble d'avance.
surtout que je perds des personnages.
Justement, j'ai très peur. Mais Annie Ernaux, vous me disiez, en écoutant cette archive, en écoutant sa voix, c'est l'auteur que j'ai le plus lu. C'est vrai?
Oui, je suis rentrée dans l'écriture de Annie Ernaux avec Passion simple, puis après L'usage de la photo, puis quand j'aime un auteur, j'aime le lire et le lire et le lire encore, et puis c'est une des auteurs dont j'attends le futur livre. C'est marrant parce qu'une époque nous sépare, elle est beaucoup plus âgée, mais je me reconnais dans ce qu'elle lit, quand elle parle de l'universalité, par exemple elle parle de la... Elle dit que quand elle écrit sur sa jalousie, c'est pas sa jalousie, mais c'est la jalousie.
Parce qu'elle écrit beaucoup sur elle, hein, pour les auditeurs qui la connaîtraient pas.
Elle écrit que deux romans fictifs et tout le reste, c'est de l'autobiographie, du récit. Et ça parle d'elle, mais je me reconnais à chaque fois. Enfin, il y a une sincérité et une simplicité dans son écriture qui me parle et qui me touche. Je lui ai envoyé un bain et la douche froide, vu que je l'avais cité en exergue. Et puis elle m'a répondu. Par courrier, j'avais oublié de mettre mon adresse, elle a écrit à mon éditeur qu'elle était contente et fière d'apparaître dans le livre, et puis elle m'a fait un petit retour, et puis j'étais
positif,
très touchée.
Ouais. Bien sûr, on imagine.
Ouais.
Des critiques quand même ?
Des critiques de sa part, c'était une petite carte, c'était un retour très positif elle décrivait mon écriture comme écorchée, et elle disait aussi qu'elle aimait tout ce qui était dans l'ordre du possible. Dans l'écriture. Elle parlait de la nouvelle qui s'appelle La table du fond, où c'est l'histoire d'un adultère, où on ne sait pas dans quel sens ça va aller. Et il y a tout ce domaine du possible qui est exploité plusieurs fois dans les nouvelles, en fait. Il n'y a jamais de recette.
C'est vrai que souvent, on se dit, qu'est-ce qui va se passer ? Et on attend parfois le pire, et ce n'est pas le pire qui se produit, ou le contraire. On se dit super, mais finalement, bon, c'est terrible. C'est une bombe, comme vous disiez tout à l'heure, qui termine le récit. J'ai envie de lire l'extrait d'une autre nouvelle. Alors, la nouvelle, c'est celle qui donne son titre au recueil, Le bain et la douche froide. Et on va en lire juste un extrait parce qu'elle est plus longue que celle que j'ai lue tout à l'heure. Et ça parle souvent, j'aimerais qu'on vienne à parler de l'amour. et de l'intime, comme disait Annie Arnaud, en disant l'intime, finalement, ça appartient à tout le monde, et c'est pas si intime que ça. C'est donc extrait du bain et de la douche froide, la nouvelle tirée du recueil Le bain et la douche froide, signé Mélanie Richaud. Ce soir, j'avais peur qu'il ne parte. Maintenant, j'ai peur qu'il ne reste, par obligation. J'ai peur d'un amour contraint, de part et d'autre. Qu'y a-t-il de pire que l'amour contraint, de plus faux, de plus destructeur? J'ai peur d'une vie à deux, enfin à cinq. À cinq, bon sang. Lui, sa fille allergique au chat, le bébé, c'est étrange de dire le bébé, mon chat et moi. J'ai peur que ma vie ne m'appartienne plus, de m'oublier dans le bonheur d'aimer, de devenir un « on » sans plus pouvoir réfléchir et vivre autrement que par ce « on », de trouver ça normal et bon. J'ai peur de ne plus oser douter, et pourtant là, je doute, plus que jamais. Je doute et j'ai peur. Enlacés dans la chaleur perdue de ce lit oublié, nous avons de la peine à nous endormir. Une fois n'est pas coutume, il parle plus que moi. Il s'imagine réveiller mon voisin de palier qui a récemment donné son congé de bail pour visiter son appartement et visualiser où ranger ses guitares s'il décidait d'y emménager. Nous rions. D'un rire qui fait du bien et qui ressemble, mais pas tout à fait à celui des mois passés, qui précède un silence plein où je le sens homme, où je me sens femme. Je sens sa différence comme une complémentarité, de manière si subite et évidente qu'elle en est brutale, presque sonore. Je chéris cette différence, je m'y abandonne. Je flotte à la surface du corps d'un homme, cet homme. La houle lente de ses respirations me berce et son cœur martèle mon oreille, plaquée à sa poitrine coquillage qui chuchote des bruits de mer. Deux hippocampes, mouillés comme un plaisir. La calmie du sommeil. Un bout de lui au creux de moi. Un petit quelqu'un au-dedans. Vraiment, c'est abstrait. Affolant. Magique. Formidable. Et là, on trouve de nouveau cette forme tout à fait poétique que vous avez d'écrire, Mélanie Richaud. Alors là, ça parle d'amour, ça parle d'un enfant à venir. Mm-hmm. Et là, on parlait aussi des possibles.
Oui.
Je ne dis pas la suite. Il faudra la lire, les auditeurs, si vous voulez savoir comment ça se finit. Ou comment ça commence, peut-être. Qu'est-ce que c'est pour vous, l'intimité, Mélanie Richaud?
L'intimité dans ma vie personnelle.
J'en reviens à ce que disait Annie Arnaud, c'est-à-dire qu'elle dit l'intimité, pour moi, c'est pas ça, c'est plutôt le privé.
Moi, je pense que, mais je crois que je suis assez d'accord avec elle, l'intimité, pour moi, je pense qu'on peut tout partager si on trouve les bons mots. Et je pense que l'intimité est plus facilement transmissible par écrit. On impose moins à l'autre quand on parle, on lui impose de nous écouter, tandis que quand il lit un livre, il est libre d'arrêter, il est libre de le fermer, il est libre de ne pas aimer, il est libre de ne pas répondre. Donc, ouais, l'intimité, je pense qu'elle est universelle et qu'elle appartient à chacun. Et peut-être que l'intimité, c'est aussi se reconnaître dans les douleurs et les faiblesses de l'autre. C'est partager ce qui est beau et ce qui est moins beau. C'est... ouais, l'intimité... L'intimité, ça peut être l'universalité, quelque part.
Mmh. C'est ce qu'elle disait, en tout cas, Annie. Vous êtes toujours d'accord avec elle, fidèle à vous-même, Mélanie Richaud. Entrer dans le rêve, ça pourrait être une injonction quand on lit vos nouvelles à vous, Mélanie Richaud. Là, en l'occurrence, c'est Gérard Manset.
Allumez l'écran, j'aime. À retrouver l'amour blessé au fond du tiroir où on l'avait laissé. Retrouver l'amour blessé. Découper le monde à coups de rasoir pour voir au cœur du fruit le noyau noir. La vie n'est pas la vie ni ce qu'on nous fait croire. La vie n'est pas la vie. La vie n'est pas ce qu'on nous fait croire. Puisque la vie n'est pas ce qu'on nous fait croire, mieux vaut le drap du désespoir. Alors, ramenez le drap sur vos yeux, entrez dans le rêve. Des autres, on l'a laissé quand le jour s'achève. Retrouver l'amour blessé, celui qu'on n'avait jamais pu vraiment laisser. Retrouver l'amour blessé, couper le monde à coups de rasoir pour voir au cœur du fruit. Le noyau noir pour voir au cœur du fruit. Le noyau noir, la vie n'est pas la vie. La vie n'est pas ce qu'on nous fait croire. Mieux vaut le drap du désespoir. Puisque la vie n'est pas ce qu'on nous fait croire. Mieux vaut le drap du désespoir. Alors ramenez le drap sur vos yeux. Entrez dans le rêve.
Voilà, ça c'était Gérard Manset avec Entrer dans le rêve, un choix de Nathalie Schoenberg pour nous. Le rêve, c'est pas toujours le cas d'ailleurs dans le bain et la douche froide de Mélanie Richaud. Parfois, c'est, le rêve se transforme en cauchemar, ou l'inverse. Cauchemar peut aussi parfois se transformer en rêve dans vos nouvelles. Une dernière voix pour vous, on va parler d'amour maintenant. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant.
Quand on essaie de définir ou de décrire un coup de foudre, c'est absolument étonnant à quel point les mêmes mots reviennent. Donc on est nourri du récit d'autrui, de la littérature, du cinéma. Et puis après, ben, peut-être que la représentation de l'amour précède. Mais ça, c'est, mon Dieu, c'est une banalité confondante. Mais évidemment, peut-être c'est ça aussi qui nous empêche de glisser simplement. Parce qu'on le compare, parce qu'on a des repères, et puis aussi des rêves de gosse. Et puis après, ben, on a qu'à se dépêtrer, parce que la vie est gluante, de toute façon. Donc cette gesticulation-là, moi, je la trouve chou. Être seul, pour moi, c'est un constat de départ dans nos conditions. On est seul, alors on peut être seul ensemble, tant mieux. On peut peut-être être seul à deux. Et puis, oui, c'est ça, quitte à être malheureux parfois. Pourquoi pas l'être à deux ? C'est Loïc Lantoine qui a cette magnifique phrase dans une de ses chansons qui dit « Je suis fier de moi quand j'ai besoin de nous ouais. ». Et oui, vraiment, c'est, comment dire, j'ai l'impression que quand on se serre les coudes, et aussi... Dans le malheur ou la déconvenue, c'est là qu'on les bras se tendent. Quand on les baisse, par ailleurs, on peut les tendre, justement. Donc, il y a peut-être une façon de tenir, de chanter dans l'arène avant les lions, qui est presque belle.
Vous avez tout de suite reconnu sa voix, Frédéric Rocrozio.
Oui.
Que vous connaissez bien, Mélanie Richaud. Et qui nous parle de coups de foudre, de solitude. En gros, il parle du couple. Et vous en parlez aussi beaucoup dans Le bain et la douche froide.
Oui.
Parlez-nous d'abord de lui, parce que je crois qu'il vous a beaucoup poussé à écrire.
Oui, il était venu jouer. Je travaillais à la salle CO2 à Bulle, la salle de spectacle. Il était venu jouer son spectacle. Et quelqu'un avait dit J'étais en échange avec lui et il avait dit dans cet échange, il faudrait qu'une femme écrive le versant de ce que j'écris au masculin. Et puis une copine qui était là avait dit, ah, Mélanie écrit des chroniques. Et il m'avait dit, envoie-les-moi. Et j'avais envoyé et il m'avait dit, il m'avait encouragé à les envoyer plus loin, dans des journaux romans. Il croyait en ses textes, puis il trouvait qu'il fallait qu'il vive. Et du coup, j'avais écrit, et c'est là que j'avais été engagée au quotidien. Donc le fait d'avoir son aval, l'aval d'un professionnel que je connaissais pas vraiment, ça m'avait encouragée. Et du coup, on a eu quelques échanges. Et j'aime beaucoup ses spectacles, j'aime beaucoup sa personnalité. Je trouve aussi que c'est un mélange de pudeur et d'impudeur, de retenue et de provocation. Et dans sa dualité, il forme une très belle unité.
De poésie et d'humour gras aussi.
Oui.
De bain et de douche froide au fond.
Ouais, exactement.
Quand il dit, il faut, quand on baisse les bras, et ben, du coup, on peut tendre vers l'autre. Enfin, il le dit beaucoup plus joliment que moi. J'ai pas noté les mots exacts. Mais ça, c'est tout d'un coup très poétique.
Ouais, c'est tout d'un coup très poétique. Et dans sa description, ben, là, à l'antenne de la solitude et du couple, ben, je suis très proche de ce qui décrit. On peut être seul à deux. Je dis des fois qu'écrire, c'est une solitude peuplée d'autres. C'est le besoin d'être seul et le besoin des autres. Et j'ai l'impression qu'on partage peut-être ça, ce besoin d'être seul et ce besoin de partager avec toutes les questions et les doutes qui tournent là autour.
Vous pourriez écrire pour lui ? Ou pour quelqu'un qui ferait des spectacles ?
Je pense que lui, il écrit trop bien que pour que je puisse lui écrire quelque chose. Écrire pour quelqu'un, c'est un défi. J'aime bien si ce quelqu'un, c'est une vraie rencontre. J'aime ouvrir son album de photos qui me raconte et puis que je trouve les mots pour raconter ce que lui me raconte. C'est pas un... Je recherche pas ça, c'est pas un réel souhait, mais s'il y a une rencontre, c'est comme pour les chansons. J'ai écrit plusieurs chansons pour Lia, c'est un chanteur jurassien. Avec lui, c'est des rencontres, c'est des chansons qu'il prend comme ça à l'emporte-pièce, il les interprète, il y a quelque chose de très intuitif, et à la fois dans l'écriture, et à la fois dans sa composition et dans son interprétation. Donc j'aime le faire parce que c'est lui, parce que c'est une rencontre. Mais écrire des chansons ou écrire pour les autres, c'est pas ça que je recherche. Mmh.
Vous avez fait du théâtre, on le voyait tout à l'heure avec Gisèle Salin, dont on entendait la voix dans une archive. Vous pourriez écrire pour vous-même et faire des spectacles ?
Alors je pense que mon entrée en matière, c'est vraiment l'écriture. Je suis une comédienne amatrice. Je trouve que je manque de moyens. J'ai mis en scène et j'ai écrit deux spectacles qui étaient issus de textes que j'avais écrits parce que je voulais en faire quelque chose et les transmettre. Puis avant d'être publiés, ben il y a peu de monde qui nous lit. Donc le théâtre, c'était une manière de
transmettre un peu les gens.
Ouais. Mmh. Là, l'année prochaine, avec des gens de Fribourg, Mathieu Kyriakidis et Baptiste Cochard, qui a fait la couverture, on fait un spectacle pour enfants qui devrait normalement être monté à Miteny. On est encore en attente de réponse du canton. Et là, c'est un spectacle pour enfants et c'était une commande. Donc, je l'ai fait parce que j'avais envie de collaborer avec eux. J'ai pas de tâche par rapport à la mise en scène, par rapport à ce qui suit, mais je suis à la base de l'histoire. Et c'était un défi, c'était une rencontre, ça s'adresse aux enfants, c'est aussi un univers que je connais. Donc oui, je le fais sporadiquement, par plaisir, par coup de foudre.
Et justement, le coup de foudre, Frédéric Recrozieux en parlait en disant « c'est très difficile de décrire le coup de foudre ». Vous, en tant qu'écrivain, Mélanie Richaud, vous en pensez quoi ?
Je crois que j'ai jamais eu de coup de foudre.
Justement, j'ai noté là, est-ce que ça existe pour vous ? J'ai noté sur ma feuille ça comme question pour vous.
Est-ce que ça existe le coup de foudre ? Moi, j'ai l'impression que plus je rencontre les gens, plus je les aime. J'ai l'impression que l'amour, il se construit, que l'amour, il est doux, il est réciproque, il est partagé, il est tendre, il est bienveillant. Et j'ai l'impression qu'un coup de foudre, c'est un éclat et c'est un mensonge. Peut-être que je me trompe, j'aimerais bien me tromper pour ceux à qui ça arrive, ou peut-être que jalouse ceux à qui ça arrive. J'en sais rien, mais j'aime bien la lenteur des choses. J'aime bien ne pas être convaincue de quelque chose, être pouvoir douter pour pouvoir y croire parallèlement. Et le coup de foudre, j'ai l'impression que ce serait trop pour moi.
Trop violent.
Trop violent.
D'ailleurs, ça me rappelle un livre qui avait été publié par deux sociologues, Schumanns et Dominici, j'oublie les prénoms maintenant, deux femmes. Le coup de foudre amoureux, et je me souviens que l'introduction du livre décrivait un vrai coup de foudre, quelqu'un qui se prenait la foudre en promenade.
Ah ouais.
Et c'est vrai qu'on oublie souvent ça, un coup de foudre.
Oui.
Ça fait drôlement mal. Hein.
Oui. C'est comme tomber amoureux, enfin, c'est quelque chose qui fait peur. Mais pourtant, je crois à l'amour et puis je le construis. Mais je trouve que ça fait aussi peur, enfin, mm-hmm. d'être aveuglé ou d'oublier qui on est. Je pense que moi, pour aimer, j'ai besoin de savoir qui je suis. J'ai peut-être besoin de prudence, mais moi, j'ai besoin de lenteur.
Ça pose aussi la question de l'écriture, c'est-à-dire comment on décrit des gens qui tombent amoureux, sans que ça fasse midinette, sans que ça fasse roman de gare, sans que ce soit banal, finalement. C'est ce que disait aussi Recrozieux dans cette archive.
Alors je décris l'amour en passant par le corps, par ce qui est sensoriel, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, par l'intériorité des personnages. Et quand on a accès ou quand on décrit l'intériorité des personnages, j'ai l'impression qu'on est dans le vrai. Donc on peut presque tout se permettre, même des choses qui sont totalement imaginées ou presque excessives, comme par exemple dans la nouvelle de La Grosse. Mmh. C'est une dame...
C'est surréaliste. Hein,
c'est surréaliste, mais moi j'ai envie qu'on y croit. En fait, j'ai envie que le lecteur y croit. Puis même si c'est de la pure fiction, pour moi, ce personnage, il existe. Mmh. Donc, le personnage... Je l'ai décrit de façon à ce qu'on sente ce qu'il ressent, à qu'on l'imagine, combien elle est grosse, comment elle vit l'humiliation, qu'est-ce qu'elle en fait, qu'est-ce que ça lui fait de découvrir les bruits de la porte de l'appartement de son voisin. Enfin, je pense que beaucoup de choses sont dans la sensorialité, ce qui justifie de l'émotion. Mmh. Je pense qu'on est un corps avant d'être un esprit. Oui, on est un corps.
C'est votre côté ergothérapeute, ça, Mélanie Richaud ?
Oui, sans doute. Je travaille beaucoup avec des enfants qui ont ce qu'on appelle des défenses tactiles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas toucher, être touchés. Or, on explore le monde en touchant. L'enfant apprend à faire des constructions en manipulant. Donc, je suis très proche vraiment de ce qui est tactile. J'aime beaucoup les gens qui touchent, j'aime toucher les gens, au propre et au figuré. Mm-hmm. Je m'en rends compte maintenant. Donc oui, c'est peut-être en lien avec ce travail avec l'humain, avec le corps, avec la rencontre à deux en thérapie.
Mmh. On va écouter un chanteur suisse encore, on a entendu tout à l'heure Émilie Zoé, un chanteur suisse qui a d'ailleurs beaucoup travaillé avec les enfants, les jeunes, qui les met beaucoup en avant. Un chanteur qu'on aime beaucoup ici sur la première, il s'appelle Pascal Auberçon, je suis sûre que vous le connaissez, Mélanie Richaud. Un de ses tout derniers titres, je vous signale le tout dernier, qu'on peut écouter sur Internet, il est à vendre sur Internet et on l'entend beaucoup aussi en ce moment sur la première. C'est très drôle parce que je crois que c'est la première fois qu'il chante en anglais. Et il est accompagné de son fils à la guitare. Un talent à suivre, à mon avis. Son fils s'appelle Louis Decker. Et le titre de la chanson, c'est Swan Song. On se dit au revoir après.
It is not the end of the world, but it's not the beginning either. Sometimes my soul is black, refusing to see the shore. It is not the end of the world, but it's not the beginning either. Sometimes sadness is too strong, refuse to see another shore. If I speak to you in English, oh, this is to relieve my trouble with very simple words. I must accept the swan song. It is not the end of our love, but it's not the beginning either. Sometimes birds fly alone, but everything is illusion. It is not the end of the world, but it's not the beginning either. Everything must disappear. One day the sun will not return. It is not the end of the world, but it's not the beginning either. I cannot tell you in French. It's too private to to be sung. It is not the end of the world, but it's not the beginning either. It is not so sad to tell the truth. Only love is immortal. It is not the end of the world. It's only the end of my world. But it's always the beginning. I must accept the swan song. It is not the end of the world. It's only the end of my world. But it's always the beginning. I must accept the swan song.
Ben voilà, Mélanie Richaud, vous l'avez découverte, cette chanson de Pascal Auberçon, la toute dernière, je crois, Swan Song. Un peu Daft Punkienne, comme ça, sur la fin, surtout, avec ce magnifique accent. Merci beaucoup d'être venu nous voir.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Bon retour du côté de Fribourg. Le bain et la douche froide, c'est votre recueil de nouvelles qui vient de sortir aux éditions Slatkin. Voilà, tout bon.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Bon après-midi.
C'est tout pour aujourd'hui. Demain, 14h, la dernière de la semaine, en compagnie d'une autre romancière. Elle s'appelle Christine Orban. Merci à toute l'équipe. Juste après les infos, c'est Pauline Vrolix avec Passagère. Il est 15h sur la première.